La matinale, un brin de causette.
Il est 7h39, nous arrivons déjà dans la dernière partie de cet entretien avec le fondateur et directeur de la Fondation Diguer, basée à Tavannes, Frédéric Guerne. Alors Frédéric Guerne, la Fondation a travaillé dans une quinzaine de pays depuis sa création. Comment est-ce que vous vous retrouvez sur le terrain? Comment ça se fait que vous allez dans tel ou tel pays?
Souvent, on a la demande vient du pays. Ça peut être l'autorité nationale, c'est-à-dire le gouvernement. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et souvent, ce sont des ONG, des organisations humanitaires de déminage qui sont présentes là depuis plusieurs années. Ils font face à une situation qui nécessite une machine et ils nous contactent. Et là, on va étudier leur cas, voir si c'est possible de monter un projet avec eux et si c'est nécessaire, même chercher des fonds avec eux pour financer en fait des machines. Donc on doit tout faire, fabriquer les machines, trouver des fonds, bref. Et on va monter en fait ces projets avec eux. Et c'est comme ça qu'on intervient. C'est assez complexe, c'est long, mais ça marche toujours vraiment. On a des résultats extraordinaires.
Aujourd'hui, vous opérez en Angola, en Cambodge, en Bosnie et même en France. Quels sont les différents... En Angola, en Cambodge, en Bosnie, on s'imagine bien, mais en France, qu'est-ce que vous faites en France?
La France a vécu plusieurs guerres. Donc, quand une guerre est terminée, les mines ou les engins explosifs, les résidus explosifs de guerre, comme on appelle ça, restent et il faut les enlever. Et encore maintenant, on va enlever des bombes qui datent de la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, ou alors, par exemple, des résidus dans des anciennes places de tir. On n'était pas toujours aussi carré que maintenant, au niveau de l'utilisation. Pendant la guerre froide, par exemple, on faisait un peu tout et n'importe quoi partout, et des bombes, on en trouve un petit peu partout, pas qu'en France, donc voilà.
Sur le site de la Fondation, on peut lire ceci: dans le domaine humanitaire, le succès n'est pas toujours au rendez-vous, l'issue des projets parfois incertaine, car les contextes sont complexes, émouvants. Qu'est-ce qui rentre en compte?
Tout. Vous pouvez tout avoir. Je me souviens une fois, je rentrais de vacances, j'écoute la radio, les nouvelles, et il y avait deux informations internationales. Et dans ces deux informations, je savais que je venais de perdre deux projets, quoi. C'était un coup d'État dans un pays. Je savais que j'avais un projet qui était en train de se mettre en place là, c'était foutu. Et un autre pays, la Russie qui envahit la Géorgie, je savais que c'était foutu parce que j'avais un projet qui se montait en Géorgie. Donc beaucoup de politique internationale. Des fois, c'est de la corruption, tentative de corruption. Et ça, je suis intransigeant, je n'entre pas en matière. Souvent, des financements qui me sont retirés ou qui ne viennent pas, qui sont inaccessibles malgré la nécessité. Le contexte humanitaire est difficile. Les fonds alloués sont en réalité très faibles par rapport aux besoins. C'est assez catastrophique. Il faut beaucoup, beaucoup se battre. Il y a beaucoup de politique derrière. Et voilà, ça, c'est un travail de fond très invisible qu'on ne voit que quand on est impliqué dedans. Mais ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie.
On l'a dit tout à l'heure en introduction, plus de 7200 personnes ont été victimes de mines antipersonnelles en 2018. C'est un chiffre qui a plus que doublé depuis 2013. Comment vous expliquez cette situation ?
Syrie, Irak, Ukraine, voilà. Ces nouveaux conflits ont été absolument épouvantables et ont touché énormément de civils. Donc, on a commencé à reposer pas tellement des mines, il y en a quand même, mais surtout des engins improvisés. Et voilà, ça remultiplie, c'est reparti pour un tour, quoi, malheureusement, avec ça.
Les traités d'Ottawa signés à la fin des années 90 évoquaient un nettoyage de la planète dans les 10 ans. Alors, on est un peu plus de 20 ans plus tard. Est-ce que... ça a changé, pas du tout. C'est triste.
Alors, le constat, les traités d'Ottawa ont fait un travail extraordinaire parce qu'ils ont permis de démarrer tout le processus de déminage, de prendre conscience de ces saletés partout dans le monde, pollution humaine et volontaire. Par contre, les résultats sur le terrain sont... Voilà, actuellement, on estime que c'est, on va pas dire un échec, mais c'est un constat un petit peu... mitigé, parce que les pays étaient engagés à déminer dans les 10 ans qui suivaient la signature, et presque 25 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, la plupart n'y sont toujours pas arrivés. Qu'est-ce qu'on va dire? Manque de volonté, manque de financement principalement, et voilà. Et moi je dirais manque de technologie. On voit encore souvent de la publicité pour nous encourager à financer des projets qui se basent sur des belles photos où on voit des démineurs qui travaillent manuellement. Honnêtement, je suis dans le métier depuis 21 ans, je ne comprends pas pourquoi on utilise encore ces arguments-là. Ils sont émotionnels, mais sur le terrain, c'est lent, c'est dangereux, ça coûte très cher. Je ne comprends pas qu'on n'utilise pas plus d'engins, de technologies. Là où nous sommes intervenus, on a réglé les problèmes, on le voit sur les cartes, on fait la différence, alors que beaucoup, beaucoup d'autres projets qui travaillent manuellement traînent, continuent à traîner, n'avancent pas. Et moi, je pense que ce n'est pas négligeable en termes de cause, c'est une des raisons pour laquelle, à mon avis, on n'avance pas. Parce qu'on ne veut pas progresser ou on ne progresse pas assez vite technologiquement. Je n'ai pas beaucoup d'explications là-dessus, mais c'est un constat qui est un petit peu, ouais, qui me reste en travers du coup. On continue à se battre et là où on intervient, ça fonctionne. Et ça me suffit pour l'instant.
Frédéric Guerne, dans quel pays aujourd'hui la situation est toujours critique ?
En termes de mines, vous dites où ? Voilà, donc oui, ben voilà, mais il y a encore 50 pays où il y a des victimes. Donc je dirais qu'il y a une liste qui est très très longue. Principalement, on a l'Afghanistan. On aura bien sûr la Syrie, on aura l'Irak, ça c'est les plus récents. Mais au Cambodge, ça reste critique. La liste est encore très très longue. Partout où on a des mines, il y a encore des accidents et c'est critique à ce niveau-là. Ça bloque l'économie, ça bloque l'agriculture. De toute façon, les conséquences sont très graves.
Vous avez effleuré tout à l'heure, vous en avez parlé un petit peu, le rêve de pouvoir intervenir où vous le souhaitez. Si vous en aviez l'opportunité, c'est dans quelle région vous iriez ?
Alors, là, vous me prenez au dépourvu, mais j'aime bien ce genre de questions. Ben, j'ai un projet que je pourrais monter au Liban maintenant. Il y a pas mal de choses à faire là-bas. Ça, c'est quelque chose qui me donne d'intervenir plus encore au Cambodge. On a déjà une machine, on a des chiens qui fonctionnent, qui travaillent aussi au Cambodge, où on a pu participer. Et ça, c'est d'en avoir un peu plus. Et un des pays qui me tient le plus à cœur, ce serait le Laos. Parce qu'on en entend peu parler, mais là, c'est une catastrophe. Et ça fait des années que je me bats pour entrer dans ce pays, pour pouvoir faire quelque chose. Et un jour, ça finira par passer.
Vous serez à la retraite d'ici 15, 20 ans. Avec votre expérience, vous pensez que la Terre pourra enfin être débarrassée des mines antipersonnelles ?
J'ai pas foi dans l'humain, de ce que j'ai vu. J'ai été souvent déçu. Donc voilà, je pense qu'on va réussir à refaire d'autres choses pour prolonger la situation, malheureusement. Mais on va avancer, c'est ça qui compte. Et chaque mine qu'on enlève, c'est une vie qui est potentiellement sauvée. Et pour moi, ça suffit. Enfin, ça suffit. Je voudrais plus, je rêverais de pouvoir être au chômage. Je ne fais pas ça pour en vivre. Enfin, voilà, ce n'est pas mon but. J'aimerais pouvoir arrêter une fois, mais je ne crois pas que j'y arriverai avant ma retraite.